Let's go.
C'est jamais.
Bon, donc rebonjour à tous. Donc voilà, le sujet du jour, c'est a-t-on raison de se mettre en colère ? Donc comme c'était, oui, c'est Annie qui nous l'avait proposé. Est-ce que tu veux, faire un petit
Alors, je vais juste expliquer pourquoi j'ai choisi ce sujet, parce que j'y ai pas du tout travaillé. Donc, en fait, je trouve que le mot colère revient très très souvent dans l'actualité, dans les informations, comme si c'était quelque chose de normal. Or, pour moi, la colère, ça évoque une attitude propre à l'enfance, on va dire, qui est une manifestation quand on est submergé par ses émotions et les gens qui, en général, sont submergés par les émotions, leurs émotions, c'est bien souvent les enfants parce que ils apprennent à le gérer. Et donc, j'ai beaucoup de mal à comprendre qu'on banalise finalement ce mot pour des adultes. Et j'ai l'impression, en plus, d'une certaine complaisance des médias par rapport à ce terme, parce que finalement, quand on n'est pas en colère, c'est qu'on est un béni oui-oui, ou qu'on ne se rend pas compte, qu'on n'a pas de conscience politique, que finalement on ne se révolte pas alors qu'on devrait le faire. Et ça me pose question, cette espèce de consensus sur le mot colère qu'on entend vraiment très très souvent dans les médias, dans les titres des journaux. Très souvent, c'est les profs en colère, les médecins en colère, enfin bref, tout le monde est en colère. Et voilà, je comprends pas cette espèce d'appel à la colère qu'il peut y avoir, alors que théoriquement, à mon sens, c'est un sentiment, enfin c'est une attitude qui révèle qu'on ne maîtrise pas quelque chose, et je ne comprends pas qu'on puisse appeler finalement à ne pas maîtriser une émotion. Voilà. Donc j'avais envie qu'on réfléchisse ensemble là-dessus pour arriver à comprendre pourquoi ce mot, parce qu'elle disait tout à l'heure c'est à la mode. Oui, enfin j'ai vraiment le sentiment d'une mode, et je ne comprends pas comment. Pourquoi on en arrive là, et pourquoi personne ne réagit, enfin j'entends pas de réaction par rapport à ça.
Okay. Merci. Alors, je passe la parole à Guy.
Oui, je pense qu'en fait, lorsque les gens manifestent, il y a des mouvements de colère chez une partie, et puis il y a une grande partie qui ne sont pas en colère. Ils sont tout simplement en train de revendiquer. On le voit dans les manifestations qui ont eu lieu récemment, et inévitablement, on pense à cette jeune infirmière qui jetait des pierres sur la police. Donc, elle dit, bon, j'ai pété les plombs, c'est l'expression qu'elle a utilisée. Elle dit qu'elle a passé une période difficile dans son activité d'infirmière, et puis que là, bon, bien, elle n'était peut-être pas en situation pour bien réagir, qu'elle a eu un geste qu'elle regrette. En fait, on peut considérer que sa colère, d'une certaine façon, est légitime, puisqu'ils ont reçu des gaz alors qu'ils sont venus pour demander autre chose. Mais légitime n'est pas légal. Hein. Je crois que c'est Gunther qui nous rappelle sans cesse la différence entre légitimité et légalité. Donc, elle n'est pas dans l'égalité. Et puis, on parlait de colère des enfants. Moi, j'ai eu deux filles. Souvent, eh bien, j'ai simulé la colère pour éviter qu'elles refassent quelque chose que je ne voulais pas. Alors, papa faisait semblant de se mettre en colère, mais c'était des fausses colères. Alors peut-être que quelquefois, comme ça, on fait semblant de se mettre en colère.
Oui. Alors, ce qui est intéressant dans le sujet, c'est Déjà, c'est a-t-on raison et donc pas a-t-on des raisons, hein, c'est-à-dire qu'on peut, on peut estimer qu'il y a des raisons de se mettre en colère, mais qu'on n'a malgré tout pas raison de se mettre en colère. Hein, donc, c'est différent. L'expression a-t-on raison est différente de l'expression a-t-on des raisons. Et puis, ce n'est pas d'être en colère, mais de se mettre en colère. Hein. Et donc, c'est vrai que c'est intéressant de, parce que bon, la colère, c'est une émotion. Bon, bah après, on peut dire on ne maîtrise pas ses émotions. Enfin bon, donc là, après, on rentrerait dans un autre débat. Mais là, il y a un côté se mettre en colère. Donc, en effet, alors comme tu dis, Guy, est-ce que c'est une vraie. Est-ce que c'est. Déjà, quand on se met en colère, est-ce que c'est une vraie colère ou une fausse colère, enfin, déjà, on peut se poser la question. Hein. Et puis donc, a-t-on raison de le faire, hein. Donc, c'est ce qui est différent de a-t-on des raisons de le faire. Parce que sinon, on va rentrer dans les débats sempiternels de « oui, mais il y a des injustices, etc. etc. » Bon. Mais voilà, est-ce que c'est un bon moyen, hein, a-t-on raison, est-ce que c'est un bon moyen d'exprimer ce qu'on a à dire ou d'agir ou, donc ça, on peut voir, on peut analyser cette partie-là, quoi. Hein, a-t-on raison? Oui, Daniel?
Justement, je trouve que les deux mots « raison » et « colère » sont antinomiques. Parce que « raison », ça veut la colère, c'est comme tu viens de le dire, une émotion. C'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, entre guillemets. Et la raison, c'est justement quelque chose que l'on contrôle. Donc, « raison » et « colère » sont pour moi antinomiques. Alors, il y a des raisons, mais… la raison et la colère ne vont pas ensemble. Les raisons, les causes, entre guillemets, effectivement, il y en a de nombreuses. Mais l'émotion, un sentiment, voilà, c'est hors la raison.
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a une espèce de une sorte d'oxymore dans le sujet. Bon, ce qui le rend intéressant. Hein, c'est ce qui le rend intéressant, c'est est-ce qu'en effet on peut trouver des raisons, donc encore une fois pas des justifications qui justifieraient la colère, mais encore une fois de se mettre en colère, c'est-à-dire, en fait en quelque sorte d'utiliser la colère, hein. Ce qui d'ailleurs, enfin, Guy a pris l'exemple de l'infirmière récemment, il y a quand même des soupçons d'une mise en scène. De cette colère, hein, elle est filmée par sa fille, hein. Elle n'est pas filmée par des gens qui sont tombés là par hasard, elle est filmée par sa fille. Donc après, mais sans vouloir alors rentrer dans le détail de cette affaire, mais on sait bien, enfin on voit bien dans les actualités en effet qu'il y a de plus en plus des mises en scène de colère. Je me souviens de, c'était il y a longtemps, c'était des agriculteurs, je crois, qui avaient saccagé le bureau d'une sous-préfecture, je ne sais plus pour quelle revendication, hein, mais bon. Et en fait, on avait découvert après coup, hein, il y avait bon, forcément, il y a toujours des gens qui finissent par vendre la mèche, que tout ça était parfaitement orchestré. Enfin, ils s'étaient mis d'accord avec la sous-préfecture. Ce qu'ils avaient saccagé, c'était un bureau dans un coin... qui gênait personne, je ne sais pas, il y avait peut-être des meubles dont on voulait se débarrasser, enfin bref, c'était la simulation d'une colère, la mise en scène d'une colère. Donc c'est assez intéressant, hein, parce que je pense qu'il y a une époque, on n'aurait pas fait ça, enfin, il y a quelque chose dans notre modernité qui est la mise en scène de la colère, et qui correspond bien à l'expression « se mettre en colère », hein. Donc voilà. Alors après, bon. Oui, Annie.
Oui, effectivement, ça date pas d'hier. Enfin, on a vu ça. Moi, je me souviens de la première émission qui avait fait polémique, c'est celle de Pollack. Je ne sais plus comment ça s'appelait, Michel Pollack.
Ouais.
Et les gens s'engueulaient sur le plateau. Et ça se terminait vraiment. Et ça faisait. C'était une grande nouveauté parce que oui, on passait des débats, des dossiers de l'écran. De pivot, des débats très, peut-être un peu trop convenus certainement, à tout d'un coup on lâche les chiens et puis on fait voilà, c'est un combat de chiens quoi, dans le et de, ce qui fait qu'on ne s'entendait même plus chez Pollack. Hein. Enfin, je veux dire, c'était très compliqué de suivre quelque chose. N'empêche qu'il a eu beaucoup d'audience parce que, effectivement, ça tranchait avec des débats qui étaient peut-être un peu trop convenus. Donc, effectivement, ça ne date pas d'hier. Par contre, quand Guy prenait l'exemple de l'infirmière, mais il a aussi pris l'exemple de lui en tant que papa, et dans son intervention auprès de ses filles était bien dans le but de les éduquer. Et donc, encore une fois, ça renvoie à quelque chose de l'ordre de l'éducation et de l'enfantin. Il faut sortir de ça. Et je pense que je n'arrive pas à admettre qu'on puisse effectivement ne pas réfréner en tant qu'adulte un mouvement de colère. Enfin, qu'on n'y arrive pas, c'est une chose, ça oui. Tout le monde se met en colère. Mais qu'on le revendique, ça me semble quand même autre chose, quoi.
Oui, alors, l'exemple de la colère dans l'éducation est peut-être intéressant. Hein. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'en fait, dans le cadre d'une éducation, on juge nécessaire de simuler une colère? Moi, je me souviens l'avoir fait aussi. Hein, donc, il y a des fois, on laisse aller comme ça une sorte de. Mais qu'est-ce qui justifie? Moi, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Mais qu'est-ce qui justifie ça, en fait? Alors après, on peut le contester, hein, mais essayons de rentrer dans la logique de ça. Quelle est la justification d'utiliser la colère comme moyen éducatif? Oui, Guy?
Oui, je crois que c'est un moyen de dire n'utilisez pas cette voix, n'utilisez pas cette chose. C'est comme un enfant qui se brûlerait ou qui se prendrait les doigts dans la prise électrique. C'est une façon de mettre un interdit. Parce qu'en fait, en principe, les enfants, ils n'aiment pas voir le papa ou la maman en colère. Ils n'aiment pas voir les parents en colère. Et donc, je pense que psychologiquement, ça les marque plus et ça leur met des interdits.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, la colère est un marqueur de la non-négociabilité, en quelque sorte. C'est-à-dire, je me mets en colère sur ce... Je me mets en colère, hein, on parle bien, encore une fois, de... Pas je suis en colère. Si on est en colère, c'est autre chose. C'est qu'on est débordé. Enfin oui, en effet, on est extrêmement ému ou quelque chose comme ça, et une émotion un peu négative. Si je choisis de me mettre en colère et d'utiliser la colère comme moyen d'éducation, je pense que c'est... j'ai vu une réaction de la tête de Daniel, donc peut-être qu'elle pourra... Mais pour moi, c'est une façon de dire ça n'est pas négociable. Voilà. Et ça peut être intéressant après de partant de ça, de voir dans l'espace public, ben justement, l'utilisation de la colère peut-être comme façon de dire « oui, mais ça n'est pas négociable, ce que j'ai à dire n'est pas négociable ». Enfin, je ne sais pas, mais comme Daniel, tu n'es pas d'accord, ben vas-y, dis-nous pourquoi.
C'est pas que je ne suis pas d'accord, mais je pense que dans ce mot « colère », dans la colère, on pourrait peut-être donner… Deux éléments, c'est-à-dire qu'il y a la vraie colère, l'émotion, c'est quelque chose qui est instinctif, et donc tout le monde est soumis à la colère à un moment donné, c'est un instinct, et c'est même un instinct très utile parce que c'est un instinct de survie, c'est-à-dire que c'est cette agressivité-là, cette pulsion agressive, c'est une pulsion de vie, c'est contre des événements. Et heureusement qu'on se met en colère ou qu'on réagit. Et la colère, très souvent, dans cet instinct-là, elle cache une deuxième émotion. C'est l'écran. C'est ce qui fait colère. La plupart du temps, enfin souvent, ça cache autre chose. Un des moteurs, c'est souvent la peur. C'est parce qu'on a peur qu'on se met en colère. Et par exemple, pour l'exemple des enfants, vous avez tous vécu ça. Moi, je l'ai vécu. La seule gifle que j'ai donnée à ma fille... C'est un jour où elle a failli s'étouffer en prenant une pomme de terre. Bon, bref, j'ai eu très peur et ma seule réaction, ça a été de lui mettre la seule claque qu'elle a reçue de sa vie. Et donc, cette colère-là, c'était mon instinct de survie, entre guillemets, vis-à-vis d'elle qui était en train de se mettre en danger. Et très souvent, un enfant qui traverse la rue sans regarder, on se met en colère. Mmh. Et c'est un instinct qui protège l'enfant. Mmh. Et par rapport aux enfants, je pense que les enfants, la colère des enfants est très constructive. C'est nécessaire qu'ils se mettent en colère. Et par contre, la réaction des parents, personnellement, c'est moi qui le pense, mais un enfant qui se met en colère, par exemple, les plus grandes colères des enfants, c'est les enfants qui sont dans la toute-puissance. C'est l'enfant de 2-3 ans qui se met à se rouler par terre parce qu'il ne veut pas avoir le bonbon ou je ne sais pas trop quoi. Et donc, c'est la toute-puissance. Et donc, il est obligé d'apprendre la frustration. La frustration, c'est extrêmement compliqué. Donc, il faut qu'il passe par ça. Mais par contre, là où avec Annie, ça serait intéressant de voir, c'est la réaction des adultes à cette colère. Si on lui dit « tu ne dois pas te mettre en colère, tu vas aller dans ta chambre, tu vas aller te calmer » et on le sépare du parent, à ce moment-là, on lui dit « tu te mets… » L'enfant, pour lui, ce n'est pas positif. Lui dire, par exemple… Ah ben là, je constate que tu es très en colère. Ah ben oui, tu ne peux pas avoir le bonbon ou la télé ou ce que tu veux. Je constate que tu es très en colère. Mais le fait de parler avec lui fait qu'il y a un lien qui continue, car l'enfant, il ne veut qu'une seule chose, c'est l'amour de ses parents. Il ne veut pas. Et donc, ça le met en danger quand on le. Mais constater sa colère, lui dire que. Ben oui, il est en colère et que dans la vie, on apprend les frustrations. Voilà. Donc, dans la colère, moi, je trouve qu'il y a deux moments. Il y a le moment instinctif qui est incontrôlable. Et puis, ce que disait Annie après, il y a un deuxième moment où il reste une tension permanente, un mécontentement. Et ça, ben oui, c'est utile pour aller manifester. Si on n'était pas en colère, peut-être qu'on n'irait pas manifester contre. Mais de dire que, enfin, l'exemple de Guy qui dit « je fais semblant d'être en colère », bon, c'est pas la colère. On utilise, c'est pas la colère. C'est une technique éducative. C'est une manière de faire, mais on peut pas. Enfin, pour moi, c'est pas de la colère. Au contraire, c'est une petite stratégie éducative. Mais je ne nommerais pas ça colère, parce que lui-même, il contrôlait très bien ce qu'il faisait. Il était dans, justement, c'était raisonnable. Ce qu'il faisait, c'était raisonnable. C'était pas. Eh bien, on se met parfois en colère sans raisonner. Je ne sais pas si je me suis fait bien.
Oui, si, mais, oui, mais justement, enfin, ce que nous expliquait Annie au début de la séance, et donc ce qui l'a incité, elle, à, comment dire, à proposer le sujet, c'est que justement, dans la société actuelle, enfin, en particulier dans l'espace médiatique, hein, parce que, enfin, politico-médiatique, enfin, ce qu'on veut, enfin, ce qu'on nous montre à la télé, etc., on parle beaucoup de colère et en effet, on peut se demander si… Parce que toi, tu dis, bah, si on fait semblant de se mettre en colère, ce n'est pas des colères, c'est évident, c'est ce que veut dire l'expression « faire semblant ». Mais justement, on peut se demander jusqu'à quel point toutes ces colères sont, en effet, sont authentiques. Mmh. Et est-ce qui est induit, enfin, en quelque sorte, ou sous-entendu par l'expression « se mettre en colère », c'est-à-dire… Oui, je suis en colère, en effet, comme tu dis, si notre enfant nous fait peur par une attitude pas très déraisonnable, je ne sais pas quoi, là, on va vraiment avoir une vraie réaction de colère. Bon, alors en effet, il y a un processus qu'on pourrait dire, on se met en colère, mais on est vraiment en colère. Se mettre en colère, et encore une fois, on se pose la question, a-t-on raison de se mettre en colère ? On voit bien que là, on est dans le sens de l'utilisation, a-t-on raison d'utiliser la colère ? Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment, et en effet, on se retrouve face à ce problème, c'est qu'il y a des colères authentiques, et puis il y a des colères dont on peut douter de l'authenticité, quoi. Mais ce que tu as dit sur la frustration, c'est vraiment intéressant, parce qu'en effet, je pense que c'est lié, enfin, ce qu'on vit aujourd'hui dans la société, il y a beaucoup de frustration dans la société, quoi. Et donc, beaucoup de choses sont… Si on utilise le mot colère, c'est sans doute aussi par rapport à ces frustrations, quoi. mais qui ont. Mais on sait aussi. Oui.
Comme les enfants.
Oui, bah, voilà, exactement. Oui, oui, oui.
On est frustré comme les enfants et en pensant qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de solution, quoi.
C'est ça. C'est-à-dire que, oui, oui, il y a parce que malgré tout, justement, un des grands objectifs de l'éducation des enfants, c'est d'apprendre à gérer ses frustrations, en effet. C'est vraiment, là, clairement, et ça, c'est un processus, en effet, éducatif. Enfin, alors, il y a des enfants plus ou moins doués pour la gestion de la frustration, c'est sûr. Mais malgré tout, ça fait partie du processus de maturité, quoi, enfin de maturation même plutôt, enfin, du processus, quoi. Donc en effet, et quand on voit toute cette colère, enfin qui s'exprime dans les médias, on peut se dire, oui, mais enfin c'est quoi, enfin est-ce qu'on est devenu une société d'enfants, quoi, hein. C'est assez intéressant de ce point de vue-là. Oui, Guy.
Oui, quand tu utilises ce mot de frustration, ça me fait penser à ces mouvements de rue qu'on voit aux États-Unis suite à la mort de, comment dirais-je, au meurtre de ce jeune garçon. Il y a tout un tas de manifestations avec des revendications parfois différentes. Et je pense que là, on a eu, dans ces manifestations, on a une convergence de frustration. En fait, on voit qu'on veut déboulonner les statues de, comment dirais-je, de Christophe Colomb, par exemple, hein. Et par exemple, les crimes qui ont été commis contre les Indiens d'Amérique, ça, personne n'en parle, hein. Il n'y a pas de revendication dans ce sens-là. Donc, c'était un petit peu déjà une approche sur le fait que lorsqu'il n'y a plus d'autres moyens, la colère devient un moyen, en quelque sorte. Et je voulais reprendre la colère, je pense à la colère rentrée. Une colère rentrée peut-être beaucoup plus mauvaise, et tu as cité tout à l'heure Aristote et Sénèque, j'ai retrouvé cette petite phrase de Sénèque qui nous dirait qu'Aristote était plus ou moins bienveillant vis-à-vis de la colère. C'est Aristote qui le dit. Il dit ceci: Aristote qui prend la défense de la colère ne veut pas qu'elle nous arrache cet éperon de la vertu. Bien, éperon. La retrancher, c'est selon lui, désarmer l'âme, ôter l'élan vers de grandes choses et la coller à l'inertie. Oui, je pense qu'une colère qui n'est pas exprimée, quelquefois, est mauvaise. La colère peut être un exutoire. On s'est mis en colère. Et il y a des gens, quand ils sont en colère, pour passer leur colère, ils cassent quelque chose, ils vont briser quelque chose. Peut-être pour éviter de frapper sur la personne qui les a mis en colère, parce que c'est souvent, on m'a mis en colère. Hein. Donc, effectivement, quand on est en colère, la raison est absente, on ne raisonne pas dans la colère. Ce sont les stoïques qui nous disent, lorsque tu es en colère, prends le temps en compte jusqu'à 20, et pendant ce temps-là, essaye d'analyser les raisons de ta colère. Et si tu arrives à faire ça, lorsque tu seras arrivé au bout du compte, ta colère sera tombée. Mais effectivement, quand on est en colère, on ne raisonne pas. Alors, il n'y a pas de raison à la colère, mais il y aurait peut-être des raisins à la colère.
juste une petite parenthèse, alors, puisque tu en as parlé, c'est vrai que alors, Sénèque a écrit tout un livre, hein, sur la colère. Où il condamne la colère. Hein, je l'ai retrouvé. Alors attendez, pas pour longtemps. De la colère, voilà. Et commence directement par dire, en gros, c'est la pire des choses, quoi. C'est le pire voilà. Que je traite. Nana, je vous applaudis d'avoir craint particulièrement cette passion de toute la plus hideuse et la plus effrénée. Donc, Sénèque condamne, c'est un stoïque, donc la colère. Et en effet, il attribue à Aristote des propos bienveillants ou très tolérants vers la colère. Alors, j'ai fait des recherches là-dessus. En fait, on ne sait pas d'où ça vient, ce que rapporte Sénèque. Nous, dans nos ouvrages, ce qui nous reste d'Aristote, hein, parce qu'on n'a pas toute l'œuvre d'Aristote, il n'y a pas de trace de ce que dit Sénèque. C'est même un peu surprenant parce que quand même Aristote, c'est le philosophe de la mesure, de la phronésis, hein, de la prudence, de la sagesse pratique, etc. Bon, donc on a des doutes sur l'authenticité de ce que rapporte Sénèque. Donc c'est intéressant, j'ai trouvé des articles entiers sur le sujet parce que bon, voilà. Donc, Par contre, Sénèque, donc, lui, clairement, condamne la colère, comme en effet, parce que justement, comme disait Daniel au début, hein, on perd la raison quoi, quand on est en colère. Donc, surtout les Romains, ils étaient très marqués par le stoïcisme, hein, donc il s'agissait de toujours garder raison. Ce qui peut être intéressant, si on retourne chez les Grecs, il y a un héros qui est un héros colérique, qui est très connu. Hein.
Achille.
C'est Achille, tout à fait. Achille, c'est toute l'Iliade, c'est un long poème, globalement, de la colère d'Achille.
Le bouillant Achille.
Voilà, hein, Achille est tout le temps en colère. Or, ce qui est intéressant, dans l'Iliade et l'Odyssée, c'est que ce n'est pas Achille qui gagne la guerre de Troie. C'est Ulysse.
Le rusé.
Ulysse, le rusé, tout à fait. Et même le poly, alors il l'appelle le polymétis, parce que métis, c'est la ruse en grec, et donc il l'appelle le polymétis, donc plusieurs fois le poly rusé, quoi. Hein. C'est-à-dire, même le filou, en quelque sorte, hein, parce que, après, ça se voit dans l'Odyssée, Ulysse, il n'arrête pas de tromper les gens. Et c'est lui qui gagne la guerre de Troie. Donc déjà, chez les Grecs anciens, il y a cette idée que, oui, alors la colère, c'est magnifique, hein, l'Iliade, il y a des pages enfin, vraiment très exaltantes. Donc la colère, c'est un côté esthétique, j'ai presque envie de dire, mais ça ne permet pas de gagner la guerre. Ce qui permet de gagner la guerre, c'est la ruse, c'est l'intelligence, c'est la raison. Donc, c'est vraiment un point intéressant de revenir. Enfin, les Grecs avaient extrêmement peur. D'ailleurs, leur mythe, c'est des punitions infligées par les dieux à des gens qui sont dans la démesure, hein, le fameux hubris. Hein. La colère, c'est une des formes de l'hubris. Oui, Daniel ?
Oui, et peut-être que le rusé, il est tellement rusé qu'il utilise, et ça c'est pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure ou ce que disait Annie, il utilise la colère comme moyen pour arriver à ses fins, et c'est ce que font les syndicats actuellement, ou les mouvements politiques, ils utilisent la colère des gens, ils la mettent en scène exactement, et ils sont très rusés comme Ulysse. Est-ce qu'ils vont gagner la guerre ? Est-ce qu'ils vont gagner la guerre ?
Je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils sont rusés, parce que Ulysse, alors c'est intéressant, enfin l'utilisation de la colère, mais ça marche dans les deux sens, parce que, alors j'ai trouvé chez Schopenhauer, je ne sais pas si vous connaissez ce livre, qui est « L'art d'avoir toujours raison ».
Oui, bien sûr.
Hein, donc c'est un livre assez, presque amusant, hein, je pense que, je ne sais pas, où Arthur Schopenhauer décrit un certain nombre de méthodes, hein, il appelle ça des stratagèmes, hein, pour une sorte de sophistique, hein, mais c'est même plus que de la sophistique, hein, c'est vraiment, on est proche de la mauvaise foi, pour toujours avoir raison dans une discussion. Et le stratagème numéro 8, il consiste à mettre l'adversaire hors de lui. Deux points. La colère étant mauvaise conseillère, il ne sera plus en état de former un jugement juste et de voir où est son intérêt. Le moyen le plus sûr de le faire sortir de ses gonds est de le provoquer ouvertement, de couper, etc. etc. Donc, c'est intéressant parce que là, on voit bien l'inverse. C'est-à-dire que, d'ailleurs, on peut dire, Arthur Schopenhauer, là, c'est que des ruses, hein, ce qu'il nous enseigne. Hein, là, c'est plutôt l'inverse. L'objectif, c'est de provoquer la colère chez la personne d'en face parce qu'il va se mettre à faire n'importe quoi. C'est un peu le provocateur qui fait ça. Hein, le provocateur, il veut provoquer la colère chez l'autre, parce qu'à ce moment-là, bah, l'autre, il va tout casser, et les observateurs qui sont autour vont dire, mais c'est lui qui a tort, il a tout cassé, il a tort. Donc, on sait bien le jeu des provocations, hein, dans tout ce monde-là. Enfin. Mais donc, c'est intéressant parce que, d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a eu des colères montrées à la télé, bah, après, il y a toujours un débat. Est-ce que la personne, voilà, si on prend l'infirmière, est-ce qu'elle a eu raison dans le cas ? Oui, mais elle a envoyé des cailloux, alors patati, elle l'a cherché, ah ben oui, mais elle avait. Enfin, finalement, la colère, bon, coupe l'opinion publique en deux, mais on ne sait pas très bien dans quelle proportion. C'est pas deux parties égales. Donc, c'est un jeu, j'ai envie de dire, un peu dangereux, parce qu'en plus, on ne connaît pas les arguments. Pour moi, le problème, il est un peu là aussi. C'est quelqu'un qui se met en colère, qui casse tout, enfin, etc. Oui, d'accord, mais qu'est-ce qu'il me dit? Enfin, qu'est-ce qu'il me dit? Vous voyez, OK, je vois bien qu'il est en colère, mais pour quelle raison exactement? Qu'est-ce qu'il veut? Etc., etc. Je sais pas, je sais qu'il est en colère. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'on parlait d'Aristote. Aristote, lui, il est pour la délibération. Alors, c'est pour ça que, peut-être qu'il a parlé de la colère dans la guerre, hein, parce que les Grecs étaient tout à fait... pour eux, la guerre faisait partie de la vie. Donc, quand on lit Sénèque, on a l'impression qu'Aristote aura peut-être dit des choses sur la colère comme étant, comme tu disais, Daniel, comme une pulsion de vie. Il y a quelque chose... peut-être que c'est utile dans une situation de violence comme la guerre. Par contre, la colère dans le domaine de la politique et de l'éthique, enfin, donc du comportement individuel et du comportement social, je ne pense pas qu'Aristote aurait été... Parce que Aristote, dans ces cas-là, il est pour la délibération. Donc, c'est un peu le problème de ça, quoi. Par rapport à la colère, oui. Bah oui.
C'est sûr. Parce que je faisais souvent remarquer à Paul, parce que les garçons, ils aiment bien, en général, les Pokémon, et c'est des personnages qui sont constamment en colère. C'est-à-dire même les figurines sont avec les sourcils foncés comme ça. Et du coup, je suis pas allée au bout parce que je vais regarder comment effectivement qui gagne dans l'histoire. Est-ce que c'est quelqu'un qui est en colère ou est-ce que c'est quelqu'un qui est rusé et qui a pris le temps de poser les choses. Je suis pas allée au bout, mais je vais regarder.
Guy ?
Oui, il y a, comment dire, lorsque la colère n'est pas simulée, je prenais quelques notes, quand elle n'est pas simulée, il y a des réactions qui sont psychologiques et des réactions qui sont physiques. Il y a montée d'adrénaline, il y a excès de bile dans le foie, puisque c'est collé et choléra, et c'est lié, si on va regarder du côté de l'étymologie. Il y a, on l'a tous vu, un serrement des mâchoires. Alors, ce serrement des mâchoires me pose question. Peut-être que lorsque nous sommes du règne animal, peut-être que les hommes préhistoriques serraient les mâchoires parce que l'attaque, c'était de se mordre, je ne sais pas, à cette époque-là. Il y a une accélération des battements du cœur. Il y a une oppression, ce qui fait qu'il y a dilatation des narines. Donc, il y a des effets qui sont physiologiques, qui font qu'on est vraiment là dans une colère qui submerge. C'est un petit peu comme une vague, et je dirais que c'est un petit peu quelquefois c'est souvent, on nous met en colère, hein, on se met pas, enfin, à part les gens qui simulent, ou les gens qui ont un caractère coléreux, peut-être que ça on en parlera, eh bien je crois que c'est comme un orage qui éclate, hein, et on dit parfois, il avait des yeux qui lançaient des éclairs, alors quand on est en colère, c'est un peu, je pense, ça me fait penser à l'orage.
Oui, ce que tu disais au début, c'est une émotion, donc c'est au sens physiologique du terme. Hein, donc, il y a forcément des impacts. Mais justement, encore une fois, quand on simule une colère, il n'y a pas tout ça, quoi. Hein, ce qui permet aussi de. Oui, Daniel ?
Parce que l'émotion elle est déclenchée par quelque chose qui nous atteint nous-mêmes. C'est-à-dire quand il y a une atteinte, quand soi-même on se sent atteint personnellement, soit dans son identité ou dans le manque de respect, c'est quelque chose qui nous atteint vraiment profondément. Et pour chacun, ça va peut-être être différent, ce qui va nous mettre en colère selon notre propre histoire ou les propres choses. Donc il y a ce côté instinctuel qui n'est pas contrôlable à mon avis et qui existe chez tout le monde, qu'on le fasse ou non, et qui est parfois, je pense, nécessaire. Et puis après, il y a quelque chose d'autre qui n'est plus ce mouvement instinctif qui est une sorte de ressentiment. Et effectivement, après, je ne sais plus si c'est Sénèque ou je ne sais plus qui disait que ce qui était important, c'est que après, on va être habité par le sentiment de se venger. Mmh. Et donc, c'est ça qui va entretenir. Mais alors, est-ce que c'est encore de la colère, mais je trouve que ces deux versants sont différents. Et on utilise souvent le deuxième versant dans les fins politiques. Mais l'enfant qui se met en colère comme ça, c'est instinctuel, quoi, j'allais dire.
Oui, oui, là, c'est des vraies colères. Enfin, là, clairement. Voilà. Même si on peut se dire que plus il vieillit, plus peut-être, parce que si ça marche, il peut de temps en temps, encore une fois, voilà, où on apprend à maîtriser, ou ben si ça marche, on va se dire ben non, surtout ne pas maîtriser et la laisser monter, et puis puisque finalement je veux obtenir ce que je veux. Mais ce qui est intéressant dans ce que, en fait, ce que vous avez dit me fait penser à un truc, c'est que finalement c'est pas une émotion primaire. Enfin, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, tout à l'heure, Daniel, tu disais, je me mets en colère parce que j'ai eu peur.
Oui. Tiens, je crois que tu parles de toi. Parce que oui, c'est bon. Je te mets la caméra.
Dans le domaine politique. Non,
je ne suis pas là.
Oui, tu cliques sur la caméra.
Ah, oui, voilà, c'est bon.
Alina, parce que, voilà. Ou alors, par exemple, dans le domaine politique, je me mets en colère parce que je suis indigné. Donc, j'ai l'impression que la colère.
Oui, ça fait écran.
C'est, oui, ou ça fait écran, ou c'est une réaction à une autre émotion, finalement, qui, elle, est plus primaire. Hein, ou, voilà, je me mets en colère parce que je suis frustré.
Oui. C'est bon, maintenant. Oh, oui.
Non, mais Alina,
c'est le micro.
Ouais. Alina, je t'ai coupé parce que, comme tu parlais avec quelqu'un, ça venait… Mais c'est pas grave, hein. Donc, j'ai coupé ton micro. Si tu veux prendre la parole, il faudra juste le rétablir. Oui, donc on voit bien que la colère vient après une autre… Enfin, voilà, en réaction, alors éventuellement pour la masquer ou pour justement peut-être trouver une solution. Enfin, si on a peur, la colère peut être une façon d'affronter la raison qui nous a fait peur, quoi. Hein, donc… Là, tu parlais des enfants, là, c'est autre chose. Hein, mais ça peut être, je ne sais pas, j'ai vraiment peur et quelqu'un m'agresse, il me fait peur, je me mets en colère. C'est ce que dit Sénèque, alors il l'attribue à Aristote, mais c'est pour trouver la force d'affronter cet événement qui me fait peur. Donc, c'est vrai que puisque c'est un événement qui me fait peur, ce n'est pas facile de l'affronter. Donc, la peur, la colère, à travers tout ce que disait Guy, hein, l'adrénaline, les battements du cœur, donc va me donner l'énergie nécessaire pour affronter cet événement qui, en effet, provoque un danger. Mais c'est intéressant de voir que ce n'est pas vraiment primaire, quoi. Je trouve ça, en fait. Alors, donc, je donne la parole à Dina.
Oh, Harold.
Ah oui, non, je reviens un petit peu sur tout ce qui a été dit sur les colères collectives qui s'expriment de manière de plus en plus fréquente et de manière plutôt violente, qu'elles soient préparées ou pas, qu'elles soient individuelles, qu'elles soient collectives, qu'elles soient en mise en scène. En tout cas, c'est un phénomène qu'on constate un peu dans tout le monde. Ce n'est pas uniquement chez nous. Donc, je me posais la question sur ces colères qui seraient mondialisées aujourd'hui par la facilité qu'on a de communiquer avec les moyens modernes. Est-ce qu'il n'y aurait pas là aussi, quelque part, le signe dans ces colères des masses d'une perte de pouvoir une perte de pouvoir sur l'ordre du monde. C'est-à-dire qu'il y aurait dans notre civilisation aujourd'hui quelque chose qu'on ne maîtriserait plus, qui nous ferait à tel point peur qu'on aimerait bien revenir à un autre ordre d'avant et qu'on a une grande difficulté à se projeter parce que les choses vont vite. Et en plus, on a une défiance quasi mondialisée de tout ce qui est de l'ordre du politique, du syndicat, de tout ce qui est médiation, et que ce sont vraiment les manifestations de la mauvaise colère, alors que la colère pourrait être aussi peut-être de la bonne colère qui nous permettrait de s'ouvrir sur le monde. Un peu, je crois que j'avais lu un article sur, sur le tableau de Delacroix. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Je crois que c'était sur l'Iliade aussi, où effectivement il exprime cette colère, le désert du monde, mais dans la perspective et dans la volonté de vouloir regarder le désordre autrement pour qu'il y ait davantage de modération et une altérité et puis quelqu'un en face pour pouvoir effectivement voir les choses différemment. Enfin, c'est des questions que je me posais surtout sur ces violences qui ne sont pas franco-françaises.
Non, qui en effet ne sont pas franco-françaises, qui ne sont pas non plus généralisées totalement. Enfin, je veux dire, par exemple, le mouvement Black Lives Matter, il y a des manifestations partout en Europe, hein, mais les formes qu'elles prennent en France sont particulièrement violentes, alors que dans d'autres pays, c'est des manifestations classiques, enfin, etc., éventuellement avec des sittings, enfin, etc. Toutes les formes de manifestations qu'on peut imaginer. Mais c'est vrai que depuis quelques années, en France, les manifestations sont de plus en plus violentes, c'est évident. Hein. Alors, tu liais ça tout à l'heure, au début de ton intervention, à la peur de la perte de contrôle. Oui, on en vient à la colère comme réaction ou comme manifestation, forme de manifestation de la peur, en effet. Il y a sans doute de ça. On peut remarquer d'ailleurs qu'il y a quelques années, c'était l'indignation qui était très valorisée. Il y avait le fameux ouvrage de Stéphane Hessel sur l'indignation, qui disait, c'était plus que sur l'indignation, il y avait une injonction à l'indignation, indignez-vous, et que quelques années après, maintenant, c'est plus l'indignation, c'est la colère. Mais on en revient à ce qu'on disait, c'est la colère comme réaction à une émotion primaire, plus primaire, qui serait, par exemple, dans ce cas-là, l'indignation. Oui, Guy.
Oui, on a évoqué un petit peu la colère comme, comment dirais-je, comme un moyen, utilisé comme un moyen pour faire peur aux gens et les soumettre. J'ai la colère instrumentalisée, en quelque sorte. Je crois qu'il n'y a qu'un être qui a le droit à la colère, hein, c'est la colère divine. C'est dans ce sens qu'on a souvent instrumentalisé la colère. Et je pense que, personnellement, je pense que quand on se met en colère, il y a quelque chose de soi, on se dévalorise. Parce qu'en fait, on n'a pas réussi à maîtriser. Moi, si je me mets en colère, après, je suis fâché après moi, parce que je n'ai pas réussi à dominer mes sentiments. Et je crois que ne pas réussir à dominer ses sentiments, c'est quelque chose qui nous affaiblit à notre propre regard. Je crois que c'est quelque chose qu'on arrive à... Je pense que les Méditerranéens... Moi, je suis un latin. Je pense que les latins, on a peut-être plus propension à se mettre en colère que les anglo-saxons, que les nordiques. Alors, peut-être qu'il y a un gène de la colère, comme on a dit qu'il y aurait un gène de la violence, je ne sais pas.
Oui, je ne sais pas si c'est un gène, mais elle est valorisée. C'est sûr que dans les cultures méditerranéennes, la colère est valorisée. Parce que sont valorisées en général les émotions dans la culture méditerranéenne. Oui, Leslie, bonjour.
Bonjour, pardon pour mon arrivée tardive. Oui, je réagissais par rapport à la valorisation de la colère, effectivement, en fonction des cultures. Et moi, je suis moi-même en train de suivre une formation, par rapport à mon métier, qui est une formation gratuite en ligne sur l'intelligence émotionnelle, justement. Et à un moment donné, il est question non seulement de dire que les émotions sont valorisées culturellement, certaines émotions plus que d'autres, mais aussi par rapport au genre des personnes, c'est-à-dire on a longtemps dit que la colère était valorisée chez les hommes, alors que la tristesse était l'apanage des femmes. Et on a toujours soutenu cette dichotomie, beaucoup en France aussi, sachant que souvent, par exemple, quand une femme se met en colère, on dit qu'elle est hystérique, par exemple. Parce que socialement, culturellement, la colère ne serait pas autorisée d'une certaine manière pour les femmes. Et on le voit de plus en plus, je trouve, dans le débat public, par exemple, ce qu'on a pu voir par les mouvements... par les mouvements MeToo, où justement les femmes qui avaient été victimes d'abus sexuels de plus en plus se mettaient à parler et certaines se mettaient effectivement très en colère. Donc on a pu les voir par exemple à la télévision. Par contre, effectivement, cette colère a tellement été contenue que du coup on avait une sorte d'explosion de colère qui en sorte d'exutoire. Voilà, c'est ce que je souhaitais dire.
Oui, alors la valorisation de la colère pour les hommes, enfin dans les traditions, on en revient à ce qu'on disait, hein, c'est-à-dire qu'elle est valorisée, elle peut être valorisée parce que dans des situations de guerre ou de combat, justement, on n'est plus dans la négociation et la délibération, cher Aristote. À ce moment-là, on fait la guerre et il n'y a plus de place pour la délibération. Donc, c'est une énergie, la colère, c'est une forme de d'optimisation, ou de maximisation presque de son énergie, quoi. Hein, donc, on a besoin de ça. Alors, juste un truc, c'est une petite parenthèse parce que c'est ce que tu m'as dit qui m'y fait penser, Leslie. Cette histoire de valoriser, on se trompe souvent un petit peu aussi. Hein. J'ai beaucoup lu sur les récits du Graal, des chevaliers, de la table ronde, etc. Donc les aventures de Perceval, tout ça, qui ont été vraiment écrits au Moyen-Âge, les chevaliers passent leur temps à pleurer. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a surpris, et qu'ils passent leur temps à pleurer. Et donc ils sont beaucoup dans l'émotion, des tas d'émotions, mais aussi les émotions de pleurs, quoi. Et alors après, moi, je disais des trucs en disant, oui, dans la tradition chevaleresque, non, pas du tout. Dans la tradition chevaleresque, le chevalier peut pleurer. Hein. Alors après, il va se mettre en colère quand justement il doit combattre et tout. Mais quand il lui arrive des aventures un peu particulières, il y a des tas de situations où il se met à pleurer. Donc voilà, des fois, on se fait des préjugés sur ce qu'étaient certaines traditions, quoi. Oui, Daniel, vas-y.
Oui, par rapport à ce qu'a dit Guy tout à l'heure, par rapport aux manifestations physiques, il y a effectivement des manifestations physiques. Il y en a une qui ne l'a pas citée, mais qui est la sécrétion d'endorphines. C'est-à-dire que quand on est très en colère, après l'adrénaline, il y a les endorphines. Et souvent, on peut voir après un sentiment d'apaisement qui est lié à ces endorphines, et parfois même une sorte de jubilation dans la colère qu'on peut voir dans certaines mises en scène de colère. Donc je trouve que c'est les manifestations physiques, mais dans la colère, les manifestations physiques sont une des manifestations, mais il y a aussi l'intensité de la colère. On va de la petite colère, on est agacé, énervé, jusqu'à la rage totale. Il y a aussi, ça donne aussi la tendance à l'action, c'est-à-dire que souvent, ça pousse à l'action, parfois néfaste parce qu'on va frapper l'autre, ça va dépasser chaud, mais aussi à ce que tu disais, c'est-à-dire que, par exemple, dans les guerres, heureusement qu'on est en colère contre l'ennemi, sinon on n'irait pas.
Hein, je pense. Oui, tout à fait. Donc, ça montre bien que la colère, finalement, c'est une attitude positive quand on est dans une situation de conflit. Et je pense que c'est ça aussi qui peut créer un malaise par rapport à cette permanence actuellement de la colère dans le débat public. c'est que ça donne une impression qu'on est en guerre, une sorte de guerre civile, quoi. C'est-à-dire que la colère, c'est une émotion de guerre, quoi, de conflit. Et donc, si tous les jours, on entend machin est en colère, et puis après, les bidules sont en colère, et puis les trucs sont en... Alors, on se dit, mais on va finir, on va se taper dessus, quoi, parce qu'on sait bien que la colère, c'est cette énergie de... Hein, c'est pas une... Encore une fois, c'est pas une énergie de délibération. C'est pas une énergie de... Donc, j'ai envie de dire, c'est pas une énergie démocratique. C'est plutôt une attitude de « je veux imposer mon point de vue, j'ai raison », comme l'enfant qui dit « moi, je veux ça et je céderai pas, quoi ». Hein ? Et oui, na. Et alors que donc si on entend ça tous les jours, on se dit bah oui, mais à quel moment on va délibérer, à quel moment on va négocier, à quel moment on va chercher à se mettre d'accord, bah non, c'est pas possible parce que tous les jours il y en a un autre qui est en colère, quoi. Et je voulais juste quelqu'un, je crois que c'est Guy qui a dit oui, là où c'est justifié, c'est la colère divine. Oui. Alors en fait, si on reprend l'Iliade et l'Odyssée, hein, c'est une source permanente d'inspiration. Mais dans l'Odyssée, à un moment donné, comment il s'appelle, oh zut, le dieu des mers, là, son nom m'échappe. C'est Neptune chez les Grecs.
Neptune,
Neptune chez les Latins. Et il a un autre.
Ah, oui, latin, c'est Neptune, lui.
Enfin, bref, c'est pas grave. Et il est en colère après Ulysse. Parce que Ulysse a tué son fils, qui est enfin un de ses fils, qui est le Cyclope, hein, le fameux Cyclope. Il c'est un des fils bref, on est toujours parvenu. Et donc après, c'est lui qui déclenche un certain nombre de calamités qui s'abattent sur Ulysse. Et à un moment donné, quand Ulysse il est chez Calypso, sur l'île de Calypso, que Calypso tombe amoureuse d'Ulysse, mais qu'Ulysse lui veut retourner à Ithaque, etc. Mais comme donc le dieu de la mer, il l'empêche de partir, quoi, en quelque sorte. Et donc là, il est en colère et tout, une colère qui dure. Et là, c'est les autres dieux qui lui disent « bon, ça va, quoi, ça suffit. Ta colère, elle a assez duré. Tu l'as retenu là pendant je ne sais pas combien de temps, tu lui as fait des tas de calamités forcément avec son bateau, parce que s'il arrive sur l'île de Calypso, ce qu'il a fait naufrage, enfin bref. Et donc, c'est même sa colère, c'est ça qui est intéressant dans la mythologie grecque, enfin chez beaucoup de mythologies, c'est comme il y a plusieurs dieux, mais ils ne sont pas d'accord entre eux, quoi. Donc, même la colère divine doit s'arrêter, quoi. Voilà. Oui, Annie.
Oui, pour revenir à l'actualité, là, tu disais le fait qu'on multiplie les colères, que chaque cause a sa colère, on finit par se demander à quel moment est-ce qu'on va pouvoir prendre les choses et les traiter posément sans que ça soit dans la colère, justement. Donc, une manifestation, on en parlait tout à l'heure, une manifestation, c'est l'expression... d'une colère, enfin de revendication, hein, c'est le plus approprié, le terme de revendication. Une fois qu'on revendique, on revendique donc en général auprès d'un pouvoir, hein, d'un gouvernement. Donc la possibilité du gouvernement, c'est de dire quoi ? C'est de dire on va s'occuper de ce problème. Sauf que si ça dure trop longtemps, on va dire qu'il ne s'en est pas occupé. Et que, donc, en fait, la solution… Moi, j'ai le sentiment là, oui, que, en fait, de toute façon, c'est comme ça que c'est organisé. C'est-à-dire, plus les gens dans la rue sont nombreux, plus la colère est censée être forte, et plus le gouvernement doit céder et appliquer immédiatement les revendications des manifestants. Là-dedans, il n'y a pas de… Je ne vois même pas l'idée… de dire on ouvre une discussion. Il y a même pas d'idée de ça. C'est je trépigne du pied, et plus on va être nombreux à trépigner du pied, et plus on va tout de suite céder à ce que nous on réclame. Donc ça a été le problème des Gilets jaunes, puisqu'ils réclamaient pas tous la même chose, mais n'empêche que c'est on ne pose jamais, enfin les manifestations ne sont jamais les prémices à une discussion future. C'est toujours Bah, en tout cas, c'est pas comme ça que c'est présenté, je trouve. Et du coup, il s'est passé, alors j'ai oublié le nom, c'est pas des assises, par rapport à l'environnement, comment ça s'appelle?
C'était le groupe de...
Il aurait fait, je sais plus comment.
La convention.
Oui, la convention, voilà.
Voilà. Alors là, on est clairement dans une démarche de réflexion, c'est-à-dire que on prend des gens, alors en plus tirés au sort, donc ils représentent un peu tout le monde, hein, le but c'est quand même ça, on les met pas juste à discuter autour d'une table, on leur permet de s'informer, de prendre le temps de s'informer, c'est-à-dire qu'ils sont là que pour ça, ils ont le temps de réfléchir, ils ont le temps d'entendre plein de choses. Et de tout ça, ils ont sorti des propositions. Cette démarche-là, qui, enfin, moi, me semble, j'aurais aimé participer à ce genre de choses, je trouve que ça doit être passionnant, de prendre le temps, justement, de s'informer, d'entendre des positions différentes, et ainsi de suite, et puis d'essayer de faire quelque chose de tout ça, de se prendre en charge. Et bien, cette démarche-là, on en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup moins, que de dire que les gens sont en colère et qu'ils ils vont descendre dans la rue et que les mouvements vont reprendre. Et je trouve ça vraiment dommage, quoi. Voilà.
Ils vont en parler aujourd'hui, puisque c'est dimanche, la fin de leur conclusion sur les tests.
On en a parlé là un peu.
Ok, Guy.
Oui, je veux prolonger ce qui vient d'être dit, que les manifestations, effectivement, n'amènent pas à des discussions et ne règlent pas des situations. C'est quand même oublier mai 68. Hein, c'est quand même la colère de la rue, la colère du peuple, quelquefois, peut changer le cours des choses. C'est oublier 1936, c'est oublier la Commune, les révolutions de 48 et la Grande Révolution française. Je crois que la colère du peuple, quelquefois, n'est pas une colère vaine. Elle peut manifester une franche volonté de combattre des injustices et de changer le cours des choses. Donc, je pense que dans ce cas-là, et on s'appelle tous cette chanson de Jules-Méry Mathieu, je ne sais pas ce que c'était, « Attention quand Paris se met en colère ».
Oui, non, c'est pour ça, oui, moi aussi j'ai réagi. Enfin, il y a des manifestations qui débouchent sur des négociations, justement, qui provoquent des négociations. Mais c'est vrai qu'on sent qu'en ce moment, c'est plus vraiment, c'est plus tellement l'idée, mais bon, on verra bien.
Pour suivre un petit peu les propos d'Annie sur cette incapacité très visible ces derniers temps de la volonté de négocier, de modérer, de se trouver face à face, de trouver des solutions. Tout de suite, moi, je pense au danger que cela peut nous mener et la possibilité de l'installation et de la disparition de la démocratie et de l'apparition aussi d'un pouvoir autoritaire. Parce que quand on propose que ça soit lâcher quelque chose, proposer, comme disait Annie, c'est comme les enfants qui tapent du pied pour toujours avoir encore, à un moment donné, si on ne veut pas que tout s'écroule, moi j'ai un peu peur qu'il y ait un personnage comme ça qui arrive et qui apporte cette solution très extrêmement nuisible et qui nous pend au nez.
Oui, c'est le danger de la colère, comme j'ai envie de dire, on en prend toujours les exemples avec les enfants, mais l'enfant qui fait une colère trop grosse, etc., il va finir par être puni, quoi. Alors, c'était pas du tout son objectif, quoi. Donc là, la colère lui a pas du tout fait obtenir ce qu'il voulait, quoi. Et parce que en fait, c'est le problème de la colère, encore une fois, c'est que la colère crée un conflit. Et que le conflit, on n'est pas sûr de le gagner, quoi. Guy, tu prenais l'exemple de la Commune de Paris. Oui, enfin, la Commune de Paris, je veux bien, mais c'est un échec total. C'est un échec total parce que justement, la réaction de la réaction, mais elle a été très très forte. Et c'est pas du tout, donc ils ont rien obtenu de ce qu'ils voulaient. En plus, bon, ils l'ont fait pendant la guerre de 70. Enfin bref, c'est quand même un épisode assez bizarre de l'équipe de l'histoire de France. Mais je veux dire, la Commune de Paris, bon, on peut pas dire que c'est un voilà. Tu le prends en exemple de la colère qui permet d'obtenir des choses. En l'occurrence, c'est plutôt un exemple d'une colère qui a débouché sur un massacre et puis sur rien du tout, quoi. Donc, c'est la guerre de 70 qui a renversé Napoléon. Oui.
Je pense que si la Commune de Paris, effectivement, n'a pas débouché, enfin, ils ont été massacrés, comme tu dis, mais ça, ils ont quand même semé des graines. Ils n'ont pas semé les raisins de la colère, mais ils ont semé des graines. Ça a quand même amené la Troisième République, et je pense que cette lutte n'a pas été inutile. Hein. Les luttes des peuples ne sont jamais inutiles. On en tire des conséquences, malgré tout, puisque c'est quand même la majorité qui doit définir son avenir. Et c'est pour ça qu'elle se met en colère parfois. Bon, ben écoute, ça n'aboutit pas, effectivement, là, ça n'a pas abouti. Et dans d'autres situations, ça définit quand même. Et puis, je voulais dire une petite chose qui m'est venue, qui est drôle. Parce qu'il y a, quand on parlait des caractères, des gens qui se mettent facilement en colère, on utilisait cette expression « il est soupe au lait ». J'aime bien cette expression « soupe au lait » parce que ça nous donne une image, ça nous fait penser au lait qui commence à monter et qui va se renverser et qu'on ne peut rien y faire. Donc l'expression « soupe au lait » pour la colère est très, très, très mignonne.
Je trouve ça intéressant que tu défendes enfin, la Commune de Paris, mais ça montre bien, d'ailleurs, en France, et ça explique peut-être la situation française actuelle, il y a une valorisation comme ça des colères populaires. C'est pas la Commune de Paris qui débouche sur la Troisième République, c'est la défaite de 70. Et d'ailleurs, la Commune de Paris, c'était pas leur idéal, n'était pas républicain, il était plutôt libertaire, fédéraliste, inspiré par Proudhon, etc. Donc, c'est pas du tout, on n'y est toujours pas. Donc, moi, il y a certaines choses qui ont été faites pendant la Commune de Paris, j'aime beaucoup, enfin des propositions, mais on n'y est pas du tout. Donc, c'est vrai qu'en France, on a un imaginaire politique assez violent et qui date de 89, hein, sans doute, hein, qu'on a trouvé dans les Gilets jaunes. Hein. Les Gilets jaunes étaient fortement inspirés par le mouvement des sans-culottes de 89, 92, 93. On a cet imaginaire-là, en effet. Et on dit ça marche. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ça, mais en effet, on valorise cet aspect, cette culture politique. Hein. D'ailleurs, encore récemment, presque en dehors du mouvement des Gilets jaunes, mais on est revenu avec des illustrations de la guillotine, etc. Moi, quand je vois ça, ça me fait froid dans le dos. Hein. Parce que la guillotine, elle a tué. Enfin, je veux dire, il y a un cimetière à Paris où il y a une plaque commémorative parce qu'à côté, il y avait je ne sais plus quelle place où on exécutait beaucoup de gens pendant la Révolution. Ça a tué tout le monde, hein. Ça n'a pas tué que les nobles, hein. Ça a tué des artisans qui se faisaient dénoncer par leurs voisins, enfin, etc. Donc, mais on a cet imaginaire-là, c'est sûr, hein, qui monte. Qui montre que on valorise en effet ces colères politiques. Oui, Daniel ? Non, Daniel, tu demandes la parole ou...
Oui. Peut-être qu'effectivement, on manque un petit peu de capacité introspective. Et j'avais trouvé ce que disait Alain. La plus redoutable colère vient de l'impatience de ne pouvoir maîtriser la colère. Et donc, je trouve qu'on est un peu dans une... Oui. Dans les propos que j'entends, on a la colère de ne pas pouvoir maîtriser la colère.
Mmh. Ouais, c'est... Oui, il y a de ça. Oui. Leslie ?
Oui, par rapport à la réflexion de Daniel. Effectivement, depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on parle de la colère en la classifiant de manière assez négative, parce qu'on a cette classification, il y a les bonnes émotions, les émotions qui sont négatives, et la colère a l'air d'être associée à ça. Ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, par rapport à l'introspection, la colère, elle est un indicateur et elle nous indique déjà l'insatisfaction d'un besoin ou une atteinte à ce besoin. Et en général, c'est vrai que la colère, en général, elle indique quelque chose qui est de l'ordre de, je pense, du dommage ou du manque de respect auquel, donc, naturellement, on a tendance à réagir si on la met en action. Et la réaction de la colère, en général, c'est l'attaque. Hein. C'est ça un petit peu la problématique. Après, par rapport à ce que disait Daniel, par rapport à la maîtrise de la colère, on peut aussi apprendre à la réguler. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on peut la réguler en intensité, on n'est pas obligé d'exploser à la figure de l'autre, ce qui effectivement risque de créer le conflit. Ou on peut en réduire ou en augmenter la durée. On peut agir sur un certain nombre de choses. Et ce que disait Alain est tout à fait vrai, c'est-à-dire que on se pose la problématique de la colère parce qu'on pense ne pas pouvoir la maîtriser. Alors que si, effectivement, on entend, on comprend ce que ça nous dit de la situation, alors on peut la réguler et l'adapter par rapport à son interlocuteur. On n'est pas obligé de s'engueuler avec ses collègues. Hein. On peut aussi se dire que bah, je suis en colère, dire pourquoi, l'adapter en fonction de la personne, de la situation. Mais ça nécessite justement, je pense, un travail et c'est une vraie compétence hein, à acquérir. Par exemple, moi je travaille beaucoup sur le management. Dans l'entreprise, il n'y a pas si longtemps, la colère n'avait pas le droit de citer, quoi. C'est-à-dire que le mec qui se mettait en colère, bon, il fichait la pagaille dans son équipe, etc. Maintenant, on est plus en expression, en compréhension pour pouvoir mieux la réguler et avoir des meilleures relations en entreprise. Mais est-ce que, par exemple, la dernière crise ne va pas justement aggraver cette sensation de colère où justement on a été très renfermé et tout d'un coup on va de plus en plus libérer toutes nos émotions après qu'elles aient été un peu bidées quoi. Donc ouais, c'est un peu la question. Je me demande ce que ça va donner par rapport à la colère après la période qu'on a connue quoi. Qu'est-ce qu'on va en faire?
Oui on peut se demander quelle est la prochaine colère. Est-ce qu'il y a des prises de parole?
Oui, une réflexion. Il y a des gens qui essayent de vous mettre en colère, voir un petit peu comment vous réagissez. Et si on rentre dans ce jeu, eh bien, on va se diminuer par rapport à l'autre et on va montrer qu'on ne domine pas bien ses émotions, et je crois que c'est un moyen de, comment dirais-je, d'utiliser la colère, parce qu'en fait, on va se sentir inférieur psychologiquement à une autre personne qui arrive à vous mettre en colère. Je pense que la colère, quelquefois, nous diminue.
Oui, ce que tu décris, c'est ce que dit Schopenhauer. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont chercher à nous mettre en colère parce qu'ils savent qu'à ce moment-là, on va pas être bon, quoi. On va donner une image de soi un peu débordante, comme ça, etc. Et puis, en fait, finalement, on perd ses moyens intellectuels, on n'est plus capable d'argumenter. Donc, c'est vrai que c'est un procédé. Hein, d'ailleurs, on sait bien, alors même dans les manifestations, quand il y a de la violence, on soupçonne toujours qu'il y a des gens qui ont fait ça, donc des manipulateurs. Alors, des fois, on dit oui, c'est la police, ou alors c'est les Black Blocs, ou c'est les anarcho-syndicalistes, enfin, etc. Pour pour en quelque sorte, justement, pour dévaloriser la manifestation. Hein, c'est-à-dire que, exactement, donc, alors eux, ils simulent une sorte de colère. On soupçonne qu'il y a des gens qui ont fait ça pour dévaloriser la manifestation. D'ailleurs, très souvent, quand il y a de la violence dans les manifestations, les organisateurs disent non, mais c'était pas nous, quoi. Hein? Donc, c'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire que c'est pas bien de se montrer en colère, quoi. C'est pas bien de montrer de la violence. Alors, ça, c'est en général. Actuellement, ça évolue. Hein? C'est pour ça que c'est l'actualité de ce sujet-là. Hein? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on montre quand on montre de la colère? Est-ce que c'est un bon moyen? Quand on regarde, en fait, si on prend par exemple dans l'affaire des Gilets jaunes, c'est assez intéressant, mais ils ont été assez soutenus au départ. Hein, ils sont montés à presque 80% de soutien dans la population. Et quand il y a eu il y a eu deux week-ends qui étaient autour le dernier week-end de novembre et le premier week-end de décembre en 2018, là où il y a eu les incidents de l'Arc de Triomphe, du Fouquet, la tentative de pénétration dans un ministère, la tentative d'incident d'une sous-préfecture, etc. Enfin, donc des séquences quand même assez violentes. Et c'est à partir de là que le soutien a décru dans l'opinion publique. Donc, on voit bien que c'est pas forcément une bonne chose, quoi. Hein,
ils sont dévalorisés.
Oui, ça a dévalorisé clairement le mouvement, oui. Mais ce qui est compréhensible en même temps. Oui, Daniel ?
Oui, parce que dans ce mouvement, il y avait des colères très différentes.
Tout à fait.
Il y avait des vraies colères et des vraies revendications, et je pense que c'est ça qui a l'opinion publique était sensible à certaines injustices et tout ça. La colère des Black Blocs est vraiment orchestrée, c'est une action politique préparée, et donc ce n'est pas que de la colère. Ce que disait Annie au tout début, et on en revient là, c'est surtout l'utilisation de la mise en scène de tout ça qui est mis par les médias, et puis par nous-mêmes aussi, on participe de tout ça, parce qu'on ne fait que d'en parler, et qu'il n'y a pas effectivement de réflexion réellement politique là-dessus, et on réagit comme un coléreux, c'est-à-dire que il y a une attaque, que ce soit une manifestation, et on surréagit de l'autre côté en disant un peu plus de police ou un peu plus soi-disant de discussion. C'est des réactions de colère à l'échelon national, pareil.
Oui, non, mais d'ailleurs, la colère, la vraie colère, hein, celle dont on parlait tout à l'heure, qui est vraiment la réaction à une émotion, donc une colère provoquée par une peur ou des choses comme ça, c'est quelque chose de d'éruptif, de spontané, qui ne dure pas très longtemps. Quand on dit oui, mais les gens sont en colère, mais c'est pendant des semaines, des mois, c'est plus vraiment de la colère, quoi. Enfin, on n'est pas en colère pendant des mois. D'ailleurs, c'est ce que disent les dieux aux dieux de la mer. Ils disent bon, ça va, ta colère, elle a assez duré, quoi. C'est plus vraiment de la. Après, c'est du ressentiment, c'est de la haine, enfin, etc. Qui eux sont des émotions ou des sentiments plus durable. La colère, c'est l'éruption. Et d'ailleurs, et pour reprendre un autre exemple de la mise en scène de la colère actuellement, c'est, alors je crois que c'est la CGT, hein, mais je ne suis pas sûr, mais ils ne sont peut-être pas tout seuls, et ils ont organisé les mardis de la colère. Alors donc, c'est tous les mardis, on est en colère, quoi. Enfin, vous voyez, ça montre bien qu'il y a une instrumentalisation là, du mot, quoi. Hein. C'est vraiment, tous les mardis, on va être en colère. Ça n'a pas de sens en quelque sorte, hein. Enfin, ou alors ça c'est plus vraiment de la colère, quoi. Ou alors c'est l'instrumentalisation de la colère pour montrer que en effet tout ce qu'on va dire ne sera pas négociable. Voilà, on veut montrer que là on est totalement indigné, etc. Bon, mais c'est D'ailleurs, ma connaissance,
Alain, je souhaiterais parler. Fait,
hein. Oui, qui ça?
Alain.
Ah, j'ai pas vu que tu étais arrivé, excuse-moi.
Non, je suis invisible. Alors, j'ai écouté en pointillé, donc je suis désolé, je vais peut-être faire des redites, mais je souhaitais intervenir, peut-être en complément en tout cas. Donc, on est sur la colère et plutôt sur des colères un peu contemporaines avec un côté plutôt négatif, on va dire. Si on va jusqu'au bout de cette colère, alors déjà une expression, je ne sais pas si Mélenchon a été cité, je crois que c'est de lui, mais quand il dit « je suis le bruit et la fureur », moi j'adore ça, mais pour moi c'est synonyme de colère. Mais je vais aller un peu plus loin et revenir à des colères plus antiques. Et je ne sais pas si la colère de Yahvé, de Dieu, qui déclenche le déluge pour punir les hommes, il y a un côté destructeur qui est prélude à une reconstruction, renaissance. Donc, si on va complètement au bout de cette colère extrême, peut-être que c'est ce que souhaitent sans doute les anarchistes, tout détruire pour reconstruire quelque chose de nouveau. Voilà ce que je voulais dire.
Alors, oui. Alors j'ai écrit un message parce que j'ai cherché plusieurs fois. On a parlé un peu des colères divines, à travers plus les Grecs, comme d'habitude. Et donc, j'ai trouvé le dieu de la mer chez les Grecs, c'est Poséidon. Voilà. Mais c'est vrai que dans les religions, on va dire, primitives, pour dire vite, les dieux sont souvent en colère. Ce qui est intéressant, justement, une des choses qui est intéressante dans le christianisme, c'est que c'est un dieu d'amour, donc c'est plus le dieu de la colère. Il y a toujours un moment donné, parce que c'est vrai que c'est difficile. Enfin, il y a eu un moment donné, je pense, dans l'humanité, on s'est dit, mais on sait que la colère n'est pas, comme le dit l'âge populaire, la colère est mauvaise conseillère. Mais alors pourquoi est-ce que Dieu se mettrait en colère? Enfin, il y a quelque chose de. C'est un peu comme les parents d'ailleurs. Hein. Si on apprend nos enfants à gérer la frustration, etc., et donc à ne pas se mettre en colère, et que pour leur expliquer ça, nous-mêmes, on se met en colère, il y a une sorte de contradiction, quoi. Enfin, c'est même plus qu'une sorte, il y a une contradiction. Et donc, il y avait une contradiction dans les religions à dire les dieux nous punissent de nos colères. Hein, les dieux grecs passent leur temps à punir les humains pour leur démesure, leur hubris, et donc, entre autres, leur colère. Et eux-mêmes sont colériques. Donc, c'est vrai que ça pose un peu un problème. Hein, clairement, c'est vrai que donc, dans l'Ancien Testament, c'est un dieu colérique. Hein. Ouais. Oui, Daniel ?
La colère, moi qui n'ai aucune instruction religieuse, la colère fait partie des 7 péchés capitaux. Et quand même, le jugement de Dieu, effectivement, c'est plutôt l'Ancien Testament, mais quand même, la colère de Dieu devant le comportement des hommes est quand même très judéo-chrétien.
Enfin, il est aussi chez les Grecs.
Oui.
Il est aussi chez les Grecs, je pense. Enfin, après, je ne connais pas les autres. Oui, c'est particulier. Mais c'est probablement, oui, c'est méditerranéen, on va dire. C'est-à-dire les Grecs.
Et puis après, dans la mythologie asiatique, les dieux sont toujours en colère aussi.
Aussi, alors très bien.
Ouais. On manie le paradoxe, là, parce que les dieux ont le droit à la colère, mais pas les hommes, pas les humains. Hein. Oh. On est en plein paradoxe. Et je pensais quelque chose. Les hommes ont d'abord été animistes, et lorsque les éléments étaient déchaînés, eh bien, à chaque fois, ils ont pensé que c'était la nature, que c'était les dieux qui se mettaient en colère. Donc, on a cette origine avec les éléments en colère.
Bon, on l'a retrouvé avec la pandémie. Hein. Il y a eu plusieurs personnes qui ont interprété la pandémie comme une vengeance de la nature. Enfin, on a retrouvé les explications, en effet, panthéistes habituelles. Hein. C'est Caron, là, le journaliste antispéciste, etc., qui a sorti un livre sur la vengeance de la nature, enfin un truc comme ça, sur le virus. Hein. Enfin, c'est de tout temps, hein, mais c'est pas, ça n'a pas disparu. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça n'a pas disparu. Hein. On n'a pas.
C'est le tremblement de terre de Lisbonne.
Alors, oui, ça c'est un. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. Oui, il y a un sujet que j'ai étudié justement. La pandémie m'a donné envie d'étudier le tremblement de terre de Lisbonne, donc j'ai passé un peu de temps là-dessus. Et il y a un prêtre, catholique portugais qui a écrit tout un texte sur que le tremblement de terre était une colère de Dieu, etc. Alors, ce qui est intéressant, ce qu'il faut savoir, c'est que quelques années après, ce prêtre, qui était plus qu'un prêtre, hein, c'est une sorte d'ermite, enfin bon, il a été condamné à mort parce que justement, il avait, pour ce genre de propos, enfin, c'était une sorte de prophète de malheur. Et au XVIIIe
siècle, c'était impie.
Oui, voilà, c'était plus considéré comme même l'Église catholique avait évolué sur ce point-là, quoi. Et elle voulait plus qu'on interprète comme ça les choses. C'est assez intéressant quand même. Hein. Il a été condamné à mort.
Ça a mis Voltaire en colère.
Ce qu'a mis Voltaire en colère, c'est pas ça, mais on va. ça pourrait être un sujet, hein, j'aimerais bien, mais c'est pas le sujet du jour. Mais non, ce qui met Voltaire en colère, c'est Leibniz, hein, avec le meilleur des mondes. Mais bon, c'est un autre sujet, ça. On en a un petit peu parlé d'ailleurs l'autre fois. Je crois qu'on a fait un sujet, vivons-nous dans le meilleur des mondes ou un truc comme ça. Hein. Bien, est-ce qu'il y a des prises de parole sur les colères divines ou les colères Bon, je pense qu'on va, on va peut-être faire une séance plus courte, hein, comme on n'était pas beaucoup, on n'est pas obligé de rester 2 heures. Est-ce que certaines personnes ont une sorte de conclusion à faire
Je dirais qu'on peut avoir des raisons de se mettre en colère, oui. On a le droit à la colère, mais pour autant, la colère n'est pas un droit.
Oui, on a des raisons. C'est ce qu'on disait au début. On peut avoir des raisons, bien sûr. Après, voilà, c'est surtout, oui, c'est pas, enfin, c'est un droit. Encore une fois, la vraie colère, comme c'est une émotion, on n'a pas besoin d'avoir un droit. Enfin, on est fait comme ça, quoi. Hein, et puis, il y a des gens qui sont colériques, en effet, d'autres qui le sont moins, etc. Bon, après, se mettre en colère, en particulier dans l'espace public, comme diraient les Anglais, the proof of the pudding is in the eating. C'est-à-dire, bon, on verra bien ce qui se passera. Hein, c'est-à-dire, là, actuellement, c'est très valorisé. Comme on disait tout à l'heure, ça pourrait déboucher sur des régimes politiques dont on n'a pas envie. Hein, donc, on va bien voir ce qui va se passer. Quoi, hein, c'est-à-dire que moi, je pense en effet qu'il y a des gens qui jouent un jeu dangereux en instrumentalisant comme ça la colère. Mais c'est ce qu'on appelait en 68. Tu parlais de 68 tout à l'heure, Guy. En 68, il y avait un concept qui était assez intéressant, qui était le concept d'idiot utile. C'est-à-dire quelqu'un qui fait le jeu, en fait, en quelque sorte, de l'adversaire. C'est en gros ce que nous dit Schopenhauer, hein, quand il dit il y a des gens qui vont vous mettre en colère parce que ça va vous ridiculiser. Si, par exemple, toutes les colères qu'on voit aujourd'hui, les manifestations plus ou moins violentes, etc., débouchent sur l'arrivée d'une Marine Le Pen, pour dire ça, les choses simplement, tous ces gens-là auront été les idiots utiles de Marine Le Pen. C'est voilà, comme on disait en 68, hein, le concept oui. d'idiot utile.
Ou alors on aura cette situation pour ne pas avoir écouté les colères aussi.
Ah. Oui, mais alors, voilà, c'est ça qui va être intéressant, c'est qu'il y aura les deux. On sait déjà qu'il y aura les deux interprétations. Il y aura ceux qui diront vous arrêtez les idiots utiles de Marine Le Pen, et ceux qui diront oui, c'est parce qu'on ne nous a pas écoutés.
Ou qu'on n'a pas analysé les raisons de la colère.
Oui, c'est ça. Enfin bon, mais malgré tout, enfin voilà. Mais on sait bien. Hein, de toute façon, on peut toujours tout expliquer, etc. Mais malgré tout, cette notion d'idiot utile est quand même une notion assez intéressante. On devrait réfléchir quand on se rend compte. Oui, Daniel.
Moi, je suis frappée que par rapport aux propos préliminaires d'Annie, qui disait que la société était traversée par la colère et qu'elle était utilisée. Moi, je pense que ça va au-delà de la colère et qu'actuellement, enfin, moi, c'est mon sentiment, la société est plutôt traversée par un sentiment de haine. Et je trouve que c'est ça qui est le plus, qui me fait le plus peur. Parce que la colère, il y a quelque chose qui peut être plus positif, tandis que la haine, ce n'est pas un sentiment instinctuel comme ça, c'est quelque chose qui est profondément enraciné. Et je trouve qu'on est plus traversé, la société, par ces mouvements de haine que de colère.
Oui, je te rejoins. Enfin, pour moi, c'est un peu la même chose, mais je suis d'accord qu'il y a, il y a beaucoup de haine qui s'exprime dans la société française. Et c'est vraiment quelque chose, enfin, tous les observateurs étrangers le disent, hein, c'est quelque chose qui semble assez franco-français, comme on dit, pour bien marquer que c'est un particularisme. Hein. Et qui ne comprennent pas d'ailleurs. Hein. Souvent, il y a une expression qui vient, je crois, d'un journaliste italien qui dit « Les Français, c'est des gens qui vivent au paradis et qui se croient en enfer. » Et donc, forcément, ça provoque… voilà,
on s'appelle
enfer, des colères et de la haine, etc. Tout à fait. Alors, c'est en effet très profond. Ouais. Je suis assez d'accord avec ça. Oui, Annie.
Oui, mais juste, je trouve un slogan qui revient aussi beaucoup, comme le mot colère, c'est « on ne lâche rien ». Voilà, ça décrit bien. Pour moi, là, on est plus dans l'ordre du caprice que dans l'ordre de la réflexion, de « on va poser sur la table un certain nombre de problèmes qui se posent ». Et le côté analyse, pour l'avoir, il faut sortir de la colère. Donc, et en même temps, dire qu'on n'a pas pris le temps d'analyser, comment est-ce qu'on peut prendre le temps d'analyser, enfin, quand je dis on, c'est plutôt finalement le pouvoir politique, comment est-ce qu'il peut prendre le temps d'analyser la colère des gens si on ne lui laisse pas le temps, parce que ce qu'on veut, c'est tout de suite une réponse immédiate. On est dans ce qui ressemble, pour encore une fois, pour des enfants, à un caprice, c'est-à-dire je continuerai de me rouler par terre jusqu'à ce que j'obtienne mon bonbon. Je ne veux pas qu'on m'explique pourquoi je n'ai pas besoin d'un bonbon maintenant. Je veux ce bonbon. Hein. Et pour pouvoir analyser les choses, d'abord, il faut que toutes les parties soient d'accord pour prendre le temps d'analyser. Je ne vois pas comment on peut... comment on pourrait demander à ce que d'autres analysent. Enfin, en plus, ça déresponsabilise. Enfin, ça me semble pas une attitude citoyenne. Et en plus, on a vraiment ce sentiment, voilà, quand on dit on ne lâche rien, c'est on va continuer à mettre le bazar jusqu'à ce qu'on obtienne ce que nous, on demande. Mais est-ce que parce qu'on demande quelque chose, est-ce que... Et même en étant très en colère, est-ce que c'est pour ça qu'on a raison de l'objet de la demande ? Enfin, je veux dire, dans ce cas-là, on va se retrouver avec... d'ailleurs, sur certains sujets, on se retrouve avec des gens qui demandent tout et leur contraire. C'était un petit peu le problème des Gilets jaunes aussi. Oui. Mais on se retrouve avec des... Et donc, sous prétexte qu'on est en colère, il faudrait accéder à la demande. Et puis, il y a un côté victime aussi derrière ça, de quand on est en colère, c'est que forcément on est victime. On est victime d'injustice, on est victime d'incompréhension et ainsi de suite. Et encore une fois, victime, c'est un état qui n'amène pas à justifier quoi que ce soit, qui n'amène donc pas à la discussion. Voilà, et donc le « on ne lâche rien », pour moi, il va avec la colère, c'est-à-dire finalement, on valorise tout ça plus que de chercher vraiment à mettre les problèmes sur la... et en discuter.
Ce qui est intéressant quand, par exemple, on parle de toutes les avancées sociales qu'il y a pu avoir en France ou politiques, on va toujours mettre en avant, parfois même d'ailleurs de façon un petit peu limite en termes de réalité historique, ce qui a été obtenu par des révoltes, des révolutions, etc. On ne parle jamais de ce qui a été obtenu par la voie parlementaire classique, par la voie de négociation, etc., etc. Il y a des tas de choses qui ont été obtenues de façon tout à fait apaisée, j'ai envie de dire. Enfin, je ne sais pas, moi, le droit à l'avortement, on n'a rien cassé. Ça a été une loi votée au Parlement par Giscard, enfin, par sous Giscard d'Estaing en plus d'ailleurs. Mais enfin, voilà. Enfin, il y a des tas de choses que, même en 36, beaucoup de choses, parce qu'en 36, c'est la gauche qui était au pouvoir. Et donc, ils sont arrivés au pouvoir par la voie des urnes et les congés payés, etc., ça a été voté au Parlement. Donc, c'est pas vraiment… c'est assez marrant que même 36, on retient les grèves de 36 et on oublie tout ce qui a été fait au niveau parlementaire de façon tout à fait apaisée, j'ai envie de dire. Enfin, c'est très, très… dans la culture française… politique française, on valorise extrêmement, enfin, encore une fois, ce qui a été obtenu par des voies de conflictuelles, on va dire, et on ne parle jamais, quasiment jamais, de ce qui a été obtenu par des voies, tout à fait, encore une fois, parlementaires et de négociations, alors que par ailleurs, et c'est là, et je pense que c'est ce qui provoque la frustration de certains, si on regarde, par exemple, dans les élections professionnelles, depuis des années, c'est la CFDT qui gagne des voix et qui, elle, est partisan, un syndicat partisan de la négociation, etc. Et c'est eux qui gagnent des voix. Et alors que dans l'espace médiatique, on nous parle beaucoup des conflits. Donc, c'est très, très intéressant. Hein. Je pense qu'il y a aussi une… C'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention à ceux qui veulent utiliser la violence et la colère, parce que, voilà, il y a quand même des signes qui montrent que dans la population, il y a une aspiration à la délibération, au dialogue, à la négociation, etc. Quoi. Donc, on en revient à cette idée d'idiot utile. Il faut faire attention parce que le soutien n'est pas si total que ça. Enfin, voilà, ma conclusion de ça, enfin, c'est quand même de… Je pense que c'est un jeu dangereux d'utiliser la colère. Voilà, c'est un jeu très, très dangereux. Oui, Leslie.
Oui, mais je me demandais en t'entendant parler justement si n'a-t-on pas raison de se mettre en colère parce que justement, en raison de son caractère spectaculaire, c'est la meilleure voie pour le changement. Est-ce que c'est le meilleur vecteur finalement et c'est ce qui provoque le plus de changements dans nos sociétés? Est-ce que c'est pas celui-là qui a le plus fort impact justement et qui change plus les choses que d'autres?
Bon, après, mais encore une fois, c'est ce que tu dis là, c'est ce qu'on valorise en effet dans la culture française, politique française. J'en suis pas certain du tout. Quoi. Enfin, l'histoire montre qu'il y a des tas de choses qui ont été obtenues par le dialogue, par la voie parlementaire, etc. Même si, attention, on a le droit de manifester, etc. C'est pas un problème, justement. C'est important aussi qu'il y ait des gens qui manifestent, qui expriment des choses. Mais une manifestation, ce n'est pas forcément une colère et ce n'est pas violent. Enfin, parce que je veux dire, il y a une différence. Quoi. Mais, bon, voilà. Enfin, oui, Daniel ?
Non ? Mais pour ne pas terminer sur une note trop pessimiste, parce que c'est un petit peu ce constat un peu triste, pour revenir à une petite note clinique, je ne sais pas si vous connaissez le spasme du sanglot. Donc, c'est la colère, on parlait de la colère des enfants. Alors, il y a des enfants tout petits qui se mettent très en colère et ils perdent le souffle. Ils pleurent. Et puis, ils ne peuvent plus respirer, ce qui impressionne beaucoup leurs parents. Donc, c'est un motif de consultation extrêmement fréquent en pédiatrie. Et pour expliquer aux parents ce qui se jouait entre l'enfant et eux, je leur recommandais de lire Astérix en Hispanie. Alors, ceux qui ont des souvenirs, dans Astérix en Hispanie, il y a le fils du chef espagnol qui s'appelle Soupe à l'oignon et crouton. C'était soupe au lait, là, mais c'était soupe à l'oignon et crouton qui se met toujours dans cette. Je ne sais pas. dans cette rage, et donc qui obtenait toujours, et idée fixe a voulu faire pareil. Donc c'était pour obtenir ce qu'on veut, et il ne faut pas rentrer toujours dans ce jeu-là, et on expliquait aux parents qu'il fallait mettre des mots sur cette colère et dire à l'enfant, ben non, je suis toujours là, je t'aime toujours autant, mais ce n'est pas parce que tu arrêtes de respirer que je vais céder à ce que tu veux. Ce que tu veux.
Non, il arrête. Voilà. Il y en a un personnage aussi qui s'appelle Danson sur le pont, Ida Vignon. bien, je pense qu'on a moins qu'il y en... Oui, vas-y Guy, allez. Avant notre poète. Non, ton micro est coupé, Guy.
Oui, la colère m'est très utile. Elle m'est très utile dans les mots croisés quand elle devient ire.
Ire. Ouais.
Ça, c'est pour notre poète.
Eh bien, vas-y, Gilles. Voilà. Père Noël, en juin.
J'y vais alors.
Eh ben écoute.
Comme vous êtes un peu court, je vais être un peu long.
Ben vas-y.
Le droit à sa colère, la colère du droit. Victor Hugo, Alter Hugo. Élément du progrès. Les Misérables, Fantine, brutalité, progrès, révolution, l'humanité. Devoir et droit. Je ne lâche rien, je prends tout qui vient au bout. Colère, bile, choléra, fureur de vivre, ire, furie, etc. Rage de vivre, tu coléreras, ta bile déchargera, hors de toi sortira, de tes gonds la mouche tu prendras et tu nous moucheras, ta crise piquera, ta colère ton courroux. Va, vole, cours où tu décoléreras. Dies irae, jour de colère, saine colère, sainte colère de l'abbé Pierre dans le jardin du pouvoir, jeter sa pierre, rouge sang versé, rouge colère à flot, qui se déchaîne Rousseau, cette humeur colère. Colérique vibrillon, bile échauffée, humeur excitée, la colère, à juste raison et avec raison, remise à flot. Se mettre en colère de la passion raison, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point, Pascal. Raison de la colère, à tort et à raison, des raisons de la passion aux raisons de la colère, fou passage mais sage des fruits de la passion aux raisins de la colère. Appel d'urgence, péage. Sans colère, pardon cette énumération. Colère, une émotion, légitime émotion, versus légale raison, un moyen d'expression et d'action, mise en scène, une stimulation, récurrente d'enfance, revendication, non négociable, un moyen dans la frustration, dans l'éducation, une instinctive tension, un instinct de survie, une pulsion de vie en réflexe, réaction, en justification et en maturation, de revendication en manifestation, en exutoire ou une force d'inertie, la colère rentrée, une ruse argusie, le moyen de ses fins, son utilisation, une provocation, de colère à colère, un moyen de pression, un pétage de plomb, hors délibération, de manipulation à manipulation, et de ressentiment en colère, sentiment, et en indignation, et en affrontement, voire en insurrection, et de primaire en secondaire réaction, personnelle ou en masse valorisation, et d'hystérisation, de somatisation, de stigmatisation, en colère conversion, voire jubilation, en réalisation, en propre conversion, voire reconversion, d'instinct en intuition, réflexe en réflexion, et dans la rue, le peuple en humanisation, révolte, révolution, comme une révélation, une régulation, maîtrise de l'action, intériorisation, extériorisation, infériorisation, dévalorisation, revalorisation de l'utilisation. Bienfait de la colère des uns, des autres, aux uns, aux autres, l'humaine colère contre la violence, la jalousie, la haine, contre le Rassemblement national RN, le rassemblement de l'humanité, la passion de l'humanité, la passion des raisons, de la folle colère, sage colère, éducation et formation, pédagogie, témoignage, transmission, fou passage, message, colère, empathie, compassion, en humanisation. Ma foi, un battement de cœur, colère, respiration, colère, inspiration, de ce monde au monde autre, colère, aspiration, de l'inspirée colère, de la première colère à la naissance, cri, à la dernière colère, contre tout contre la mort, le cri, de la délivrance, de la libération, colère qui m'inspire, à la fin de l'envoi, de la colère renvoie, mon cher William, j'expire.
Merci Guy. Donc je coupe l'enregistrement.